C'est le type de récit dont on se dit, ok, je comprends l'histoire qui est plutôt, on va dire, étrange, amusante, mais face à un prédicateur, celui-ci est obligé d'expliquer un peu certaines choses, quitte à perdre la partie majeure de son auditoire. Donc aujourd'hui, il faudra un peu dire ce qu'est, pour comprendre cette histoire, ce qu'est un sadducéen, ce qu'est un pharisien, ce qu'est un essénien. Alors on va essayer quand même. Donc c'est le projet. Alors il y a des sadducéens qui arrivent dès le début du texte. Alors s'approchèrent quelques sadducéens. C'est un mot étrange pour le commun des gens. Qui s'intéresse encore aux sadducéens aujourd'hui? Personne. Pourtant, eux semblaient, d'après ce texte, s'intéresser à Jésus, s'intéresser à ses idées, s'intéresser à ce qui se passait autour de lui. Alors, qui étaient-ils, ces gens-là? Et plus généralement, qui sont les acteurs en présence dans ce texte? C'est ce qu'on va voir, rapidement. De quoi est faite la controverse, la discussion? Puisqu'il y a une discussion dans ce récit, c'est ce qu'on va voir aussi dans un deuxième temps. Et puis, pour respecter une certaine forme de règle, qu'en dit Jésus? Sa parole, est-ce qu'elle peut nous intéresser à ce sujet? Troisième étape. Sadducéen, ça vient d'une expression, ça vient de fils de Sadoc. Et Sadoc, c'était un grand prêtre du temple de Salomon. C'était un groupe de prêtres, c'est-à-dire des gens qui organisaient les offrandes, les sacrifices dans le temple, responsables. C'était aussi des collaborateurs avec, en l'occurrence à cette époque de Jésus, le pouvoir politique romain. Donc, vous pouvez imaginer qu'ils n'étaient pas extrêmement appréciés par les gens qui, en plus, devaient, d'une certaine manière, leur rendre des comptes et payer pour faire leurs offrandes au temple. C'était l'aristocratie de Jérusalem. Elle était en grande partie de ce courant-là, de cette lignée-là. Il y a un historien dans l'Antiquité qui est très connu, qui s'appelle Flavius Joseph, un historien donc, qui les qualifie de riches en plus. Et ce même historien, qui était un pharisien, lui, dit ça. Je cite, « Les pharisiens ont transmis au peuple certaines règles qu'ils tenaient de leur père, des règles qui ne sont pas écrites dans les lois de Moïse, et qui, pour cette raison, ont été rejetées par les sadducéens, qui considèrent que seules devraient être tenues pour valables les règles qui y sont écrites. » Et que celles qui sont reçues par la tradition des pères n'ont pas à être observées. Donc vous voyez qu'il y a l'état d'un conflit entre les pharisiens qui sont les tenants de la tradition orale et les sadducéens qui sont eux sur la tradition écrite. Et ces gens-là, donc, les sadducéens, ne croient pas à la résurrection, chose à laquelle croyaient les pharisiens. Ils ne croient pas aux anges, parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup d'anges dans l'imaginaire. Ils ne croient pas, finalement, au Dieu des pharisiens. On pourrait dire qu'ils sont assez proches d'une certaine forme de libre-arbitre. On pourrait les qualifier de littéralistes, c'est-à-dire qu'ils sont pour le texte écrit exclusivement. Ils s'en tiennent à ce qui est écrit. Les pharisiens, eux, croient à la loi orale qui a été transmise, celle qui deviendra plus tard le Talmud. Ils sont pas beaucoup plus libéraux que les sadducéens. Les pharisiens, c'est au nom de cette tradition orale qui a fini par être mise par écrit qu'ils prétendent en faciliter l'application de la loi écrite. Mais ils se trouvent accusés, dans les évangiles, de rendre impossible cette application. Ils se font accuser de garder pour eux le pouvoir de juger et de trancher. Alors, bref, moi, j'ai une certaine affection pour les sadducéens, ces aristocrates collaborateurs, c'est bizarre. Déjà parce qu'ils ne prétendaient aucunement à la conquête de l'esprit du peuple. Les pharisiens, eux, ils étaient en patrouille morale pour surveiller ce que faisaient les gens d'après les évangiles. Ils étaient là pour juger les litiges. Une certaine affection aussi, puisque ils ont été balayés, ces pauvres sadducéens, par la destruction du temple de Jérusalem, par un certain Titus, Titus, empereur romain, qui a été surnommé délice du genre humain. Un monsieur qui deviendra empereur en 79, 79 tout court, 0079 si vous voulez, et 9 ans après la victoire qu'il a obtenue en Judée et le massacre de milliers de juifs. Ces gens-là, les Sadducéens, ont été balayés complètement. Ils ont, par cet historien que j'évoquais tout à l'heure, le certain Flavius, ils ont été repérés comme aimant débattre. Et donc, il n'est pas étonnant qu'ils aillent vers Jésus pour lui poser une colle. Et cette histoire a peut-être quelque chose d'historique, de véritable. En tout cas, c'était des gens du débat. Donc, vous voyez bien les forces en présence. La tradition orale et la tradition écrite. Et c'est la tradition orale, finalement, qui a gagné. Pour toute raison gardée, on pourrait dire que le mouvement de la réforme au XVIe siècle était une protestation contre la tradition orale pour le respect de la sola scriptura, d'une certaine manière, même si les protestants, on pouvait difficilement les qualifier de purs littéralistes à l'époque, mais quand même, ils ont dit que la tradition orale prenait trop de place, et donc la tradition tout court. Et l'avantage avec les Sadducéens, avec leur tradition écrite, c'est que finalement, on ne pouvait pas trouver de moyen d'appliquer réellement la loi, et du coup, il fallait faire des offrandes pour se faire pardonner. Donc, ils vont vers Jésus. Jésus, lui, on ne sait pas trop qui il est. On ne sait pas trop qui il est, parce qu'en général, on n'arrive pas trop à analyser sa propre religion. On arrive bien à analyser la religion des autres, mais la nôtre, on en fait partie, donc on ne se pose pas trop la question. Mais si on a un désir de voir plus grand, plus loin, on aime bien s'intéresser aussi à cette question. Et là, on découvre Jésus avec une formation assez mixte. On sait qu'il pense comme les pharisiens, il croit à la résurrection, mais aussi comme un autre groupe de gens un peu plus renfermés sur eux-mêmes, les Esséniens. Des gens austères, quoi, des sortes de moines. Et puis, à la fin, quand on fait vraiment cette recherche sur Jésus, quand on s'intéresse à lui, on s'aperçoit en fait qu'il est vraiment singulier, qu'il n'appartient pas vraiment à aucun des groupes présents à l'époque. Donc voilà, oui, chers amis, il fallait faire, je crois, cette présentation, sinon je vous aurais menti sur le texte, et ce n'est pas vraiment le rôle d'un prédicateur de mentir à son auditoire. La question, donc, c'est résurrection, oui ou non? Quelques-uns des Sadducéens vont donc vers Jésus et lui posent une colle qui prend la forme de l'histoire de cette pauvre femme et de ses 7 maris. Histoire au bout de laquelle le compte des morts arrive à 8, les 7 maris plus la femme. Si je peux le noter, il y a une certaine ironie dans cette question, une espèce de non-dit, parce que qui, en entendant cette histoire, ne s'imagine pas ça? J'ai fait un petit test hier, tout le monde m'a parlé veuve noire, m'ont cité des noms de faits divers au XXe siècle, etc. Bon. Je ne sais plus comment elle s'appelle, cette brave dame. Voilà, Marie Bénard. Imaginez si le deuxième frère a pu rester confiant en allant appliquer cette règle qu'on appelle le Lévira. Et là aussi, je suis obligé de parler de ça. C'est la règle du Lévira qui s'applique. Quand il n'y a pas de descendance, le frère va devoir demander en mariage sa belle-sœur. Je vais lire cette règle qui s'appliquait partout dans l'Antiquité. Dans le Deutéronome 25, on la lit et puis on voit qu'en fait cette règle, même si aujourd'hui elle est totalement inconcevable, qu'elle était là pour protéger les femmes. Alors, lorsque des frères demeureront ensemble et que l'un d'eux mourra sans laisser de fils, la femme du défunt ne se mariera pas au dehors avec un étranger, mais son beau-frère ira vers elle, la prendra pour femme et l'épousera comme un beau-frère. Le premier-né qu'elle enfantera succédera au frère mort et portera son nom afin que son nom ne soit pas effacé d'Israël. Et c'est là que c'est plutôt intéressant. Si cet homme ne veut pas prendre sa belle-sœur, elle montera à la porte vers les anciens et dira « Mon beau-frère refuse de relever en Israël le nom de son frère. Il ne veut pas m'épouser par droit de beau-frère. » Les anciens de la ville l'appelleront et lui parleront. Et s'il persiste et dit « Je ne veux pas la prendre », alors sa belle-sœur s'approchera de lui en présence des anciens, lui ôtera son soulier du pied et lui crachera au visage. Et prenant la parole, elle dira « Ainsi sera fait à l'homme qui ne relève pas la maison de son frère, et sa maison sera appelée en Israël la maison du déchaussé. » Vous voyez que la femme, elle n'est pas juste cette femme passive, c'est important qu'elle reste dans une lignée, quoi. Donc si le deuxième frère a pu rester confiant ou pas vraiment prêt à subir cet affront public de se faire cracher au visage, et si éventuellement après la mort du deuxième, le troisième a pu se dire que après tout, tout ça n'est qu'une coïncidence, le quatrième a pu commencer à se poser des questions et commencer à y aller à reculons, quant aux trois derniers, ils ont dû être terrifiés de s'approcher de cette femme. Ironique, les Sadducéens, cultivés et malins. Pour dire, voyez, voilà, ça c'est le texte écrit, il est inapplicable, du coup vous n'arrivez pas à l'appliquer, du coup on va faire, les offrandes servent pour ça. Et ne croyez pas les pharisiens qui vont dire, on va trouver une astuce pour que ce soit appliqué, y compris dans ce cas extrême. Et aussi, ils sont là pour prouver que cette histoire de résurrection est absurde, puisque avec qui elle sera mariée au ciel. Entre parenthèses, c'est cette histoire qui a justifié la théologie sacramentelle du mariage catholique. On se marie qu'une fois et c'est réglé. Les Sadducéens ne croyaient pas à la résurrection, mais est-ce qu'on peut leur en vouloir? Vous êtes-vous déjà posé cette question de l'avantage qui pourrait exister à ne pas croire à la résurrection personnelle? Y aurait-il des attentats suicides associés à des promesses fantaisistes, si une croyance similaire n'existait pas? Croiriez-vous qu'il y aurait un tel mépris collectif pour le lendemain si la croyance au surlendemain n'était pas assurée pour certains? Qu'ai-je à faire du lendemain si mes surlendemains sont assurés? Au contraire, si finalement ils ne le sont pas assurés, mais surlendemain, cela permettrait d'associer le lendemain à l'aujourd'hui, car sans la croyance, d'une manière ou d'une autre, à la résurrection, à la vie après la vie, tout deviendrait en quelque sorte un aujourd'hui. Tout deviendrait important. Et c'est ce que pensent les Sadducéens d'une certaine manière. L'important, c'est l'acte que tu fais face à ton Dieu. Je me souviens d'une comédie américaine récente où des juifs, pas trop pratiquants, se retrouvent être forcés par leur mère à suivre des frères et des sœurs, suivre à la lettre les règles du deuil. Par exemple, rester assis pendant des jours et en recevant toute la famille. Et assis, du coup, il parle, et c'est fait pour ça, ce rite. Il est bloqué comme ça. Il se pose ce genre de questions. Est-ce qu'on croit, nous, à la vie après la mort? Il y a un autre qui répond, non, je crois que nous n'y croyons pas. Je crois que les Juifs n'y croient pas vraiment. Et c'est vrai que cette idée-là est assez récente dans la Bible que nous avons, dans l'Ancien Testament. Et l'autre répond en substance, ces chrétiens sont beaucoup plus malin que nous, au niveau marketing. Alors, troisième partie, qu'en dit Jésus? La réponse de Jésus dans ce texte me laisse pantois. Et à la fin, c'est encore plus que pantois. En gros, Jésus commence par leur dire que ce n'est pas le problème. Si, avec une traduction, il dit, en gros, ces histoires de mariage ne concernent pas, j'ai bien entendu, ceux qui ont été jugés dignes d'accéder à ce monde-là et à la résurrection d'entre les morts, qui ne prennent ni femme ni mari. Non pas dans le futur paradisiaque, c'est maintenant, ils ne prennent pas femme et mari, donc il n'y a plus de problème. Au revoir, vous pouvez circuler. Là, chez Jésus, on sent en relant de sa formation, Jean le Baptiste était quelqu'un, une espèce de moine, nécénien, ça s'appelle. Ils n'étaient pas tous des célibataires, mais ils étaient quand même super austères avec des règles très strictes. Et pourquoi ça me laisse pantois? Parce qu'en fait, je m'imagine les Sadducéens qui étaient là, se dire, bon, j'imagine le haussement d'épaule de ces aristocrates. C'est pas très... C'est petit comme argument, quoi. Voilà. Et leur déception aussi, parce qu'ils avaient raconté quand même une belle fable. Cela a dû laisser pantois les pharisiens qui auraient pu écouter Jésus à ce moment-là. Mais disons que cette première partie de réponse a un intérêt tactique. Vous n'avez qu'à pas vous marier, le problème sera réglé. Même si elle ne répond pas évidemment à la question des Sadducéens, elle sort Jésus du problème qui lui est posé. Jésus n'est pas là pour régler les problèmes entre des Sadducéens et des pharisiens. Il est là pour manifester le règne de Dieu. Ensuite, Jésus tente d'argumenter en faveur de la résurrection d'une façon bien singulière, en rappelant que Dieu est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. En général, on passe sur cette phrase, alors que cette formule dit bien quelque chose pour Jésus. Il dit que si c'est le Dieu de ces trois-là, c'est qu'aucun d'entre eux, Abraham, Isaac et Jacob, n'est mort définitivement. Car ça n'aurait aucun sens de le dire. On ne dirait pas Dieu est le Dieu de trois morts. Jésus est en effet confronté au fait brut qu'il n'y a aucune croyance à la résurrection dans sa Bible. Quand on meurt dans cette Bible, c'est fini, tout passe, et les textes le répètent sans cesse. Nous sommes de l'herbe, la parole de Dieu reste, mais tout le reste passe. Mais alors, si c'est ça, pourquoi dire qu'il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob? Jésus joue avec la lettre de la formule. Un peu comme si nous disions « liberté, égalité, fraternité » et que ça devrait s'appliquer dans la vie courante. On n'est pas des littéralistes, on n'est pas des fondamentalistes. Voilà ce que Jésus fait avec Abraham, Isaac et Jacob. Et puis, à ce moment-là, on sort de la controverse et de la tactique. Une pensée singulière commence à apparaître. Jésus, à ce moment-là, change la manière de concevoir la croyance en la résurrection. Au lieu de dire que la résurrection n'existe pas, comme les Sadducéens, au lieu de dire, comme les pharisiens, que la vie avant la mort conditionne la vie après la mort, il ne part même plus de ce point-là. Il ne part plus de la vie individuelle. Il dit... Il n'y a que la vie, il n'y a que des vivants. Il dit que Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Tous sont vivants pour lui. Et là, je suis fasciné. Avec sa réponse, il se distingue de tous les gens qui l'entourent. Avec sa vraie réponse finale, il nous fait rentrer dans une véritable nouvelle dimension. Dans un autre espace où il n'y a plus que des vivants. Il nous fait réfléchir à la communion que parfois nous prenons, la communion de tout le monde, qu'il soit là, présent, ici ou pas. Qui peut partager le point de vue de celui dont on dira qu'il est l'Esprit de Dieu, sa parole? Alors voilà le message pour aujourd'hui. Dieu est le Dieu des vivants. Vous pouvez dire que votre religion n'est pas un pansement contre la mort. Vous pouvez dire que nos rituels ne sont pas que des rituels de deuil. Et si vous allez plus loin, vous irez contempler l'éternité où tous sont vivants. Et vous vous direz qu'un jour, un jour que vous renverrez à la notion d'après, un jour après, le jour du Seigneur, le jour unique, vous comprendrez. Vous vous direz que vous serez compris par cette éternité. Dans la lumière de ce jour, vous comprendrez vraiment la notion de vie éternelle. Qui est la vie de Dieu, qui est la vie d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui est votre vie, qui est la vie de la multitude autour de nous. Et cette éternité vient vous toucher, elle viendra vous toucher, elle vient déjà vous toucher au cœur même de votre temporalité, de votre existence, au cœur même de votre vie. Elle est déjà sensible. C'est ça que Jésus dit à ces gens qui l'entourent. Il envoie un appel à sentir la présence éternelle de Dieu.